Viens, Seigneur Esprit Saint, toi qui es la troisième personne de la Trinité Sainte, qui est un avec le Père et le Fils, toi par qui Dieu nous donne tous ses dons d'amour, de guérison et de consolation, grâce au Christ Jésus mort sur la croix pour nous. Viens, Esprit Saint, sur chacun d'entre nous, en chacun d'entre nous aussi, pour venir agir, ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Merci, Seigneur Esprit Saint, de toute l'œuvre que tu fais dans cette prière. Merci de toutes les grâces que tu nous donnes. Et ce soir, nous avons... J'anime cette prière. Il y a le Père Alain Ratti qui est là avec moi. C'est un prêtre du diocèse de Meaux. Il anime aussi une prière des malades depuis un an sur le diocèse de Meaux. Et ça marche très bien. Il y a aussi des guérisons. Dès qu'on se met à prier le Seigneur, il faut le faire bien. Il faut avoir du discernement, bien sûr. Ce n'est pas n'importe comment. Qu'on invoque le Seigneur pour demander des grâces, eh bien, Dieu, il est là. Il répond à notre appel. Et lui-même a été guéri par le Seigneur. Donc lui-même a vu la puissance du Seigneur agir en lui. Voilà, merci Seigneur pour ton œuvre magnifique. De l'évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, ce texte, c'est un texte un peu difficile parce que vous savez tous que la religion chrétienne, c'est une religion de l'amour. Jésus nous demande d'aimer. Mais jusqu'où nous demande-t-il d'aimer? C'est la question. Jusqu'où il nous demande d'aimer? Eh bien, il nous demande d'aimer jusqu'à nos ennemis. Alors, pour comprendre la difficulté puis la grâce que Dieu veut nous donner à travers cet amour, on va d'abord réfléchir à la manière dont nous aimons ordinairement. Ordinairement, quand nous aimons, et ça c'est le propre de tout le monde sur cette terre, eh bien, nous aimons une personne parce qu'elle nous fait du bien. Ça, c'est normal. Donc, nous aimons une personne parce qu'elle déclenche sur nous quelque chose qui nous fait du bien. Et à ce moment-là, eh bien, l'amour est déclenché en nous parce qu'il y a quelque chose dans l'autre qui nous fait du bien. Par exemple, notre enfant, on l'aime bien. C'est notre enfant, donc on l'aime. Mais, en principe, si on en reste à cet amour-là, on aime l'autre parce qu'il nous fait du bien, on est dans un amour ce qu'on appelle égocentré, c'est-à-dire centré sur nous-mêmes. J'aime l'autre pour moi, voire même parfois égoïste. Je l'aime uniquement parce qu'il me fait du bien. S'il ne fait plus de bien, ben je l'aime plus. Donc il y a une deuxième composante dans l'amour, qui est en général présente plus ou moins chez tout le monde. J'aime aussi l'autre pour lui-même. Je l'aime aussi pour lui-même, indépendamment du bien qu'il me fait. Maintenant, il y a un dosage. Est-ce que j'aime plus l'autre pour lui-même? Ou est-ce que j'aime plus l'autre parce qu'il me fait du bien? Quand des personnes tombent amoureuses, quand elles tombent amoureuses, elles pensent qu'elles s'aiment à la folie, que rien n'enlèvera jamais leur amour. En réalité, quand elles tombent amoureuses, elles aiment surtout l'autre pour le bien qu'il nous fait. Je tombe amoureux de l'autre parce que je suis sûr qu'avec lui, ça va être génial. Donc, je suis follement amoureux de lui. Et au cours du mariage, quand je suis avec l'autre, ben voilà, c'est plus difficile parce qu'il n'est pas exactement comme j'avais imaginé. Casse un peu les pieds, etc. C'est dur. Et là, je suis obligé de passer à une autre composante de l'amour, c'est-à-dire de l'aimer pour lui-même, même quand il ne me fait plus du bien. Ça devient plus difficile. Mais là, on entre dans le vrai amour. Tant qu'on est dans l'amour « j'aime l'autre parce qu'il me fait du bien », c'est facile. Tout le monde est capable d'aimer comme ça. Pas compliqué. Mais quand on commence à aimer l'autre pour lui-même, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Surtout quand l'autre me fait moins de bien ou me fait pas autant de bien que je voudrais. Mais là, on reste encore, je dirais, entre guillemets, dans l'amour naturel, ordinaire. Alors, à des doses plus ou moins élevées, il y en a qui ne sont pas capables d'aimer l'autre pour lui-même. Ils vont simplement aimer les autres qui leur font du bien. Donc, dès que l'autre ne me fait plus du bien, dès que je ne ressens plus de l'amour pour lui, eh ben, je le quitte et je vais voir quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, je vais à nouveau ressentir de l'amour jusqu'à ce que l'effet magique soit terminé. Et en plus, on passe ensuite à quelqu'un d'autre. C'est des gens qui font comme ça, un peu comme des abeilles qui passent de fleur en fleur. Mais ils ne sont pas capables d'aimer l'autre pour lui-même, donc ils ne sont pas capables d'être fidèles. Quand on veut épouser quelqu'un, il faut quand même vérifier qu'il est capable, et nous-mêmes aussi, on doit vérifier pour nous-mêmes, qu'on est capable d'aimer l'autre pour lui-même, c'est-à-dire qu'on est capable de sortir d'un amour égocentré. Mais Jésus nous demande d'aller plus loin. Il nous demande d'aimer nos ennemis, donc il nous demande d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal. Non seulement il ne nous fait pas du bien, mais il nous fait du mal. Là, ça devient très très compliqué. Parce que l'amour, c'est le bien qui déclenche l'amour. Le mal ne déclenche aucun amour. Donc la première chose, c'est que quelqu'un qui me fait du mal, à moins d'une grâce de l'Esprit Saint absolument extraordinaire qui me met à 10 000 mètres de hauteur, quelqu'un qui me fait du mal, je n'éprouve pas de sentiment pour lui. C'est normal, il fait du mal. Je peux même éprouver de la haine pour lui, parce que le mal provoque en moi une émotion de haine ou de colère, ce type d'émotion. La haine en elle-même n'est pas un péché, contrairement à ce qu'on croit. C'est une émotion qui est provoquée en moi. Ça devient un péché quand je vais cultiver cette haine, quand je vais la faire grandir. Mais la première émotion de haine que je peux ressentir en moi, c'est pas un péché, c'est qu'il me fait du mal. C'est naturel. Même les psaumes, le psalmiste exprime parfois la haine qu'il a parce que l'autre lui fait du mal. Mais si le psalmiste en restait là, ce serait un péché. Il l'exprime pour pouvoir en sortir, pour que Dieu le guérisse. Quand quelqu'un me fait du mal, pour pouvoir l'aimer, naturellement, je ne peux pas. C'est pour ça que le commun des mortels va dire « Moi, mon père, je fais de mal à personne. Je fais du bien à ceux qui me font du bien, mais je fais du mal à ceux qui font du mal. Mais c'est normal, ils me font du mal. Donc j'en fais du mal, c'est normal. Mais je fais du bien à ceux qui me font du bien, ça c'est le plus important. » Ben non, ça c'est ce que Jésus dit, ce que font les païens. C'est-à-dire ceux qui ne demandent pas à Dieu la grâce d'aimer leurs ennemis. Et le Seigneur nous demande, lui, d'aimer nos ennemis, c'est-à-dire d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal. Il ne nous demande pas d'éprouver pour lui des sentiments amoureux. Il ne nous demande pas d'éprouver pour lui des émotions positives. Il nous demande de l'aimer, c'est-à-dire, nous dit Jésus, de prier pour lui. De prier pour lui. C'est comme ça qu'on va pouvoir l'aimer. On va pouvoir l'aimer en priant pour lui, en priant pour que le Seigneur change son cœur, en priant pour qu'il soit sauvé, en priant pour que notre cœur aussi change, parce que peut-être que s'il est notre ennemi, il y a quelque chose qui ne va peut-être pas en nous aussi, ça peut arriver, il n'y a pas que les autres qui sont mauvais. D'accord ? Le Seigneur nous demande de l'aimer, c'est-à-dire de faire ce qu'on peut faire quand l'autre nous fait du mal, pas d'avoir des sentiments, de prier pour lui. Voilà. Il y a même parfois des gens qui font du mal, je vais les fuir. Vous connaissez peut-être la morphologie des pervers narcissiques, on en parle beaucoup aujourd'hui. Quelqu'un qui est pervers narcissique, il est dangereux pour tout le monde, donc on a intérêt à le fuir, d'accord ? Parce qu'il va vous persécuter. Mais on va quand même prier pour lui, même si on est obligé de le fuir. Voilà. Eh bien, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais pour ça, il faut supplier au Seigneur de nous donner sa grâce. Comme le disait saint Augustin, « Seigneur, demande-moi ce que tu veux et donne-moi ce que tu me demandes. Demande-moi ce que tu veux, mais donne-moi la grâce de faire ce que tu me demandes. » Si nous ne voulons pas aimer nos ennemis, le Seigneur ne demande pas de... Il demande d'essayer. Voilà. On va tous essayer. On essaye, comme le Père qui aime tous ses enfants, même ceux qui sont méchants, il fait même pleuvoir sur les méchants, comme le dit Jésus. Eh bien, si nous essayons d'aimer nos ennemis, alors, en nous, il y a quelque chose qui fait que nous allons pouvoir aller au ciel. Si nous ne voulons pas aimer nos ennemis, nous ne pourrons pas aller au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'un côté certains, et puis de l'autre côté les autres. Ceux que je ne veux pas voir, ils sont à 5000 km, et puis ceux que je veux voir, ils sont avec moi. Au ciel, on sera tous ensemble, donc on n'aura pas d'ennemis. Donc tout le monde aura un cœur qui sera devenu rempli d'amour. Il faut demander au Seigneur de cheminer vers l'amour des ennemis. Quand quelqu'un nous a fait très très mal, ça peut prendre parfois 10 ans, 20 ans d'arriver à finalement arriver à l'aimer. Ça peut être un long chemin de combat et de prière. Le Seigneur n'a pas dit qu'il fallait arriver dans la seconde à l'aimer. Il a dit qu'il faut essayer, puis ça peut prendre du temps. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors maintenant, je vais demander à Joseph Guy de venir. Vous savez, il y a 2000 ans, le Seigneur, il enseignait et puis il guérissait. Les guérisons sont là pour aussi attester que c'est vraiment Dieu qui agit dans sa parole, que son enseignement vient de Dieu, surtout quand l'enseignement est difficile. Alors, venez, je vous dis, aidez-moi. Allez, très intimidé, mais il a accepté d'être devant vous, mais je vais donner son témoignage et ensuite il dira juste un petit mot. Alors, Joseph Guy m'a bien expliqué son témoignage, donc je vais le reprendre en fonction de ce qu'il m'a dit. Donc Joseph Guy n'avait plus de flexibilité dans le poignet depuis 15 ans. Et à cause de son métier, il m'a dit, il tapait avec sa main, eh bien les os se sont progressivement collés, agrégés les uns sur les autres, et ça a été confirmé par l'IRM. Il avait mal en permanence, il ne pouvait plus saisir par exemple quelque chose entre le pouce et l'index. Il est allé voir des médecins, des kinés, des ostéopathes. Aucun n'a pu faire quoi que ce soit pour lui, pour le guérir. Il est venu plusieurs fois à la prière des malades, il est venu en particulier le 26 janvier 2017. Il y a une parole de connaissance qui annonçait que Jésus guérissait quelqu'un du poignet droit. En sortant de cette prière, José Guy a remarqué qu'il commençait à avoir moins mal au poignet, ainsi qu'à son épaule qui était bloquée, où il souffrait aussi, dans son épaule. Et ensuite, dans les semaines qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, le mal est parti progressivement, et aujourd'hui, José Guy ne sent quasiment plus rien. Il a retrouvé toute la flexibilité de son poignet, de sa main, de son bras, et il m'a dit combien il était heureux de cette guérison. Il exulte et remercie le Seigneur de cette guérison. Il m'a dit par ailleurs qu'il aimait bien louer le Seigneur tous les jours et qu'il avait une foi forte, qu'il désirait vraiment de tout son cœur croire en Jésus-Christ et l'aimer et le louer. Merci Seigneur pour cette guérison.
Je remercie le Seigneur pour cette guérison.
Voilà. Vous avez entendu, José Guy a dit sa parole. Il m'a dit que je dirais une parole, pas plus. Merci beaucoup.
Merci José Guy.
Voilà. Ben, c'est impressionnant pour témoigner devant vous. Moi, j'ai l'habitude. J'ai fini par m'y habituer, mais pour des personnes, certaines sont impressionnables. Et je le comprends parce que j'étais comme ça. Alors, lors d'une prière des malades, c'est d'autres témoignages. Une femme a été guérie spontanément. Elle avait un polype à l'utérus. Elle devait subir une intervention pour l'enlever. Et après être venue à la prière à Saint-Nicolas, celui-ci a disparu. Merci Seigneur. Alors Lydie, elle est venue nous témoigner qu'elle avait très mal au cervical depuis longtemps. C'était très pénible pour elle. Elle est venue à la prière des malades en octobre dernier. Il y a eu une parole de connaissance sur la guérison de cervicale. Et 6 jours après, elle a constaté qu'elle ne souffrait absolument plus dans ses cervicales. Merci Seigneur pour cette guérison. Renélia avait des crises de tachycardie depuis des années. Elle avait aussi des problèmes de circulation, comme l'indiquaient ses fourmillements permanents dans les pieds. En décembre 2015, elle a eu une phlébite qui a été traitée pendant plusieurs mois. Puis elle est venue à la prière des malades. Mais on n'arrivait pas à ce moment-là, quand elle est arrivée à la prière des malades, on n'arrivait pas à réguler ses INR qui étaient très irréguliers. Donc il y a une parole de connaissance qui a annoncé la guérison d'une personne ayant des fourmis dans les jambes. Et depuis, elle n'a plus de fourmis dans les jambes. Elle n'a plus de tachycardie. Et le médecin a constaté qu'elle n'avait plus de problème de circulation sanguine et a pu arrêter immédiatement tous les traitements. Merci Seigneur pour cette guérison. Dernier témoignage que je vais donner, ce n'est pas une guérison directe, mais indirecte. Félix est venu prier en avril 2015 à Saint-Nicolas-des-Champs. Il avait un cancer du pancréas. La parole de guérison du cancer du pancréas a été prononcée ce jour-là. Or, il se trouve que, suite à cette parole, sa tumeur a diminué. Et jusque-là, on ne pouvait pas l'opérer à cause de l'ampleur de sa tumeur. Et à ce moment-là, on a pu effectivement l'opérer, et maintenant il va bien, il a une visite de contrôle tous les 4 mois. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant exposer le Saint-Sacrement, comme je l'ai dit au début de cette prière. Jésus lui-même est au milieu de nous. Si votre foi est faible, si vous ne comprenez pas trop, ce n'est pas grave. Vous dites au Seigneur, je crois en toi, même si je ne comprends rien. Et le Seigneur, il comprendra, lui il vous comprendra, et il viendra à votre secours. Amen.